Bonjour Sylvie Ampiquian.
Oui, bonjour Jacques et bonjour à tous les auditeurs.
Merci, eh bien nous sommes contents de vous revoir parce que nous avions déjà fait des émissions avec vous, notamment sur le microbiote. Vous aviez
Tout à
ô
fait.
combien raison, ô combien raison. Et maintenant, de plus en plus, on en parle d'ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, alors Sylvie Ampiquian, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais ils ne doivent plus être très nombreux, elle est d'origine vétérinaire, pardon. Et ensuite, elle a fait une formation de pharmacotoxicologie. Et puis elle est partie sur les plantes médicinales. Et depuis, on ne l'arrête plus. À tel point qu'elle nous engage à une balade médicinale au fil des saisons, 20 plantes sauvages pour se soigner, qui est apparue aux éditions Terre Vivante, qui vient de paraître aux éditions Terre Vivante. Alors, c'est quoi une balade médicinale au fil des saisons?
Alors voilà, en fait, tout est dans le titre, hein. Balade, parce que c'est une promenade, c'est pas forcément une sortie que l'on va faire exprès pour aller faire des cueillettes. C'est la promenade qu'on va faire le long du petit chemin qu'on a l'habitude de fréquenter. Médicinale, pourquoi? Parce que ben justement, lors de cette promenade assez banale, on croise des plantes tout aussi banales et qu'on croit bien connaître, et surtout qu'on sait reconnaître, comme le coquelicot, la pâquerette, le coucou, c'est-à-dire la primevère officinale, le millepertuis. Alors ça, les gens le connaissent pas forcément le nom, mais ils connaissent bien la plante, voilà, l'ortie. Et en fait, toutes ces plantes sont des plantes médicinales, dont certaines même sont des médicinales majeures, comme le plantain ou l'ortie, qui ont vraiment, ou le pissenlit. Donc voilà, il y a l'aspect promenade, en fait. Voilà, c'est pas forcément la sortie botanique à visée médicinale, c'est la promenade habituelle, et puis on va revenir avec une petite récolte de plantes. Et pourquoi au fil des saisons? Parce que justement, on n'a pas classé les plantes, on en a sélectionné 20 parmi les plus connues, on les a pas classées par famille botanique ou par ordre alphabétique, on les a classées en fait par ordre d'entrée dans le texte, en quelque sorte par ordre d'apparition à l'écran, vous voyez, c'est-à-dire par ordre d'apparition au fil de l'année. On a commencé par le début du printemps, vers Pâques, puis voilà, le printemps
Bah,
verdoyant,
comme on a en ce moment.
voilà,
Alors,
et puis le
justement.
début d'été, la fin d'été, l'automne, et il y a encore quelques cueillettes à faire en hiver.
Alors, voilà. Alors, Sylvie, elle nous dit, vous pouvez aller vous mettre dans les ronces, vous pouvez ramasser des mûres, et vous pouvez même en faire un masque de beauté.
Oui, c'est assez méconnu en fait, c'est une recette qui nous vient plutôt des États-Unis. Oui, les mûres sont une source d'antioxydants. Hein. Antioxydants, ben, c'est tout ce qui va être un peu anti-âge, anti-rides.
Et voilà, on mélange donc les
Et
mûres
voilà. Alors
que
il
l'on
suffit
broie.
de. On va faire un petit peu comme on fait un masque aux fraises. On va les mixer, mais comme c'est quand même très très coloré et qu'on va pas se retrouver avec la peau rouge, on la mélange avec un petit peu de yaourt et on en fait une pâte en les mixant et on laisse poser comme un masque habituel.
Et alors on demande à nos auditeurs de nous envoyer des photos. Voilà.
Voilà.
Voilà. Alors, elle nous dit aussi, après la ronce que l'on dédaigne trop, il y a une deuxième plante que l'on dédaigne aussi fortement, et d'ailleurs on évite de s'y frotter, c'est l'ortie. Mais vous nous dites, c'est excellent pour le cuir chevelu.
Ah oui, et l'ortie, ça j'aime bien le dire parce que je pense que vos auditeurs doivent se souvenir de Maurice Messiguer qui nous a quittés il y a pas si longtemps que ça. Il était très âgé, il avait 93 ans je crois, et c'était sa plante préférée, l'ortie. Bon, l'ortie elle a mille vertus, mais elle est notamment réputée effectivement pour les soins du cuir chevelu. Il y a une très vieille recette qui s'appelle la lotion du docteur Leclerc qui associe l'ortie, la capucine et le buis. Et c'est censé faire repousser les cheveux. L'ortie, elle assainit le cuir chevelu, elle le tonifie et ce faisant, elle va s'opposer à la chute des cheveux et également aux pellicules.
Alors, vous ne regarderez plus l'ortie de la même façon. Et d'ailleurs, il y a une autre
Oui,
recette.
parce qu'elle est. Et puis appelait les délicieuses en potage. Mais nous n'abordons pas l'aspect cuisine dans ce livre. Il y en a d'autres, hein, des livres de recettes de cuisine aux plantes sauvages. Mais c'est vraiment un potage qui est délicieux. C'est pas trop la saison en ce moment, mais c'est en début d'hiver, par exemple. Non seulement c'est délicieux, mais en plus c'est reconstituant parce qu'elle apporte beaucoup de minéraux et vitamines.
Voilà, il y a aussi une recette qu'on peut connaître sur l'ortie. Si jamais en pique-nique on se met à saigner du nez parce que souvent il y a du soleil, eh bien le jus d'ortie sur un coton, il stoppe le saignement de nez.
Oui, tout à fait.
Voilà,
tout à
comme
fait.
Quoi, on a à portée de la main tout ce que l'on veut.
Tout à fait. Il y a la pimprenelle aussi, pour ceux qui savent la reconnaître. On l'a pas traitée, la pimprenelle, dans ce livre, parce qu'elle est un peu moins connue que les plantes qu'on a abordées. Alors, c'est le coquelicot, c'est la pâquerette, voilà. Mais la pimprenelle est un très bon hémostatique aussi, pour ceux qui savent la reconnaître.
Oui, c'est plus difficile à reconnaître, la pimprenelle. Hein.
Oui, voilà, quand on la connaît, voilà, il n'y a pas de souci, mais on l'a tous croisée, mais voilà, faut avoir l'habitude de reconnaître ces petites feuilles dentées. Elle est un peu plus difficile à repérer. L'ortie, ça, on peut pas la rater.
Ah, on la rate pas, on s'y pique, on s'y frotte.
La petite astuce, c'est qu'il faut toujours prendre des feuilles par le dessus et surtout pas par le dessous.
Oui, parce que c'est là qu'il y a les poilures
piquants. Les poilures piquants sont dessous. Voilà.
Alors, il y a aussi une lotion qu'on aime bien ici, c'est la lotion de millepertuis, parce qu'elle est aussi bien valable pour les coups de soleil que contre les douleurs rhumatismales. Alors, comment fait-on une lotion de millepertuis?
Alors, en fait, c'est une huile macérée qui est exceptionnelle. Moi, c'est vraiment mon remède naturel préféré, même si j'ai pas de douleur. Mais des rares fois, j'en ai. J'ai pu apprécier ses propriétés qui sont supérieures, vraiment, à celles des anti-inflammatoires en pommade. Donc en fait, on va cueillir des fleurs de millepertuis, on va les mettre dans un bocal, genre un grand bocal à confiture, ça dépend des besoins qu'on a. On choisit la taille du bocal en fonction de ses douleurs. Et donc on va remplir le bocal sans trop tasser. On recouvre tout simplement d'huile d'olive jusqu'en haut du bocal. Il faut bien que les fleurs soient bien immergées. On referme le bocal et on va l'oublier pendant 3 semaines, si possible au soleil ou devant une fenêtre ensoleillée. On agite un peu chaque jour et ensuite on filtre. Et étonnamment, le millepertuis qui est une fleur jaune va donner une huile rouge, mais vraiment rouge, rouge sang, d'un très beau rouge, et qui est un antidouleur. Alors, aussi bien antidouleur musculaire et articulaire que douleur cutanée, c'est-à-dire les irritations, les coups de soleil, les brûlures superficielles, voilà.
Voilà, et ben une belle lotion de millepertuis qui est aussi valable pour les coups de soleil, donc, mais qui n'est pas valable comme filtre. Et alors, rappelons
voilà,
bien.
Voilà, qui n'est pas un filtre solaire.
Voilà, c'est pas un filtre solaire. Voilà. Et rappelons bien que le millepertuis, c'est le millepertuis officinal. C'est pas le millepertuis de jardin, hein.
De jardin. Alors, en fait, je n'ai jamais réussi à trouver dans les ouvrages si le millepertuis de jardin avait les mêmes propriétés. C'est pas impossible, mais c'est pas prouvé non plus.
Oui, parce qu'en plus.
Donc, c'était le millepertuis sauvage. Ne connaît pas forcément, c'est pas la plante la plus connue de l'ouvrage, mais une fois que vous aurez vu la photo, vous direz ah ben oui, c'est ça, d'accord. Il y en a au bord de tous les chemins, il y en a sur les remblais, voilà. Alors, quand je dis remblais, bien sûr, hein, il faut pas cueillir au bord des routes passantes, à côté d'une centre de retraitement des déchets, ou voilà. Ça va être quand même plutôt on va privilégier les chemins de campagne, pas trop proches des cultures intensives ou des routes, des autoroutes, voilà.
Et voilà. Et le millepertuis a les mêmes fleurs que le millepertuis de jardin, mais en plus petit,
voilà,
c'est tout.
Voilà, en plus petit, voilà. Et si vous avez un doute, vous prenez les feuilles, vous regardez par transparence, ce sont les seules qui sont comme ça, elles sont perforées de tout petits trous.
D'où le nom.
D'où le nom.
Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a notre pharmacie d'été, là, grâce à vous, notre pharmacie naturelle.
Tout à fait.
Et en sachant qu'au moins l'avantage, c'est qu'on ne sera pas plus malade après qu'avant.
Voilà. Mais moi, je dois avouer que depuis que je pratique la phyto, et puis, ça fait assez longtemps, hein, et également les cosmétiques naturels, je m'aperçois que dans certains domaines, je ne parle pas de maladies lourdes, hein, mais pour les petits bobos et puis pour la beauté, ces produits que l'on fabrique soi-même ne sont pas seulement aussi efficaces que ceux du commerce, mais ils sont plus efficaces.
Eh ben voilà, je crois que c'est la conclusion, en disant aussi, en rappelant à nos auditeurs que la maison Alfort, l'école vétérinaire, a rouvert le jardin de plantes médicinales pour traiter les animaux.
Donc, c'est une très bonne idée.
Si vous voulez le visiter, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'école vétérinaire. Il y a un très beau musée aussi. Enfin, Sylvie le connaît, puisque en tant que vétérinaire.
Ah oui. Ben, j'ai pas fait mes études à Alfort, mais enfin, j'ai fait mes études complémentaires à Alfort, mais c'est le lieu de passage obligatoire de tous les étudiants vétérinaires de France, puisque c'est là qu'on passe le concours, enfin, du moins à notre époque. Et effectivement, il y a un musée qui est très intéressant. Il y a le musée Fragonard aussi.
Voilà, c'est le musée Fragonard. Effectivement. Voilà. Et ils ont rouvert le jardin médicinal parce qu'autrefois on traitait les animaux comme ils se traitaient eux-mêmes d'ailleurs souvent.
Oui,
naturellement.
Juste pour rebondir sur ce sujet-là, à la Vallée des Singes, dans la région de Poitiers, les soigneurs ont planté des petits jardins de plantes médicinales dans les enclos des singes, et les singes se soignent eux-mêmes. Et depuis qu'ils ont fait ça, les singes sont beaucoup moins parasités notamment.
Et ben voilà, comme quoi l'instinct, on peut appeler ça l'intelligence animale, comme dirait Maureen Shai, d'ailleurs qu'on va interviewer, qui est le responsable de la ménagerie du jardin des plantes. Mais effectivement, il y a une intelligence animale et il y a une intuition et on serait peut-être.
Intuition, tout à fait.
Et ben on aurait peut-être intérêt à plus copier les animaux, mais ça c'est un autre débat.
Oui.
Merci beaucoup Sylvie et à bientôt.
Merci.
Et nous rappelons donc votre livre qui est apparu aux éditions Terre Vivante, qui s'appelle Balade médicinale au fil des saisons, 20 plantes sauvages pour se soigner, par Sylvie Empiquian. Merci beaucoup, belle journée.
Merci, bonne journée à tous. Au revoir.